Donc la semaine dernière, nous avons vu ensemble l'introduction sur la sagesse. Et c'est vrai, avant de commencer, merci pour votre invitation et encore une fois, c'est une joie de partager la parole de notre Dieu ensemble, hein, de voir ce que le Seigneur a envie, ce que le Seigneur veut mettre encore au fond de notre cœur pour notre vie, hein, de tous les jours. Au travers, en tout cas, de cette réflexion sur la sagesse. Nous avons essayé de donner quelques exemples la semaine dernière de différentes formes de sagesse, comme notamment l'exemple sur les enfants sont sortis sagement. Mais nous avons vu également que on peut attribuer la sagesse à un trait de caractère. Par rapport à une attitude, à un raisonnement, à une façon de faire, de dire, de s'exprimer, de gérer. Mais ça, c'est un trait de caractère de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse dans sa globalité. Nous avons vu un exemple très complet et ô combien parfait. C'est celui de Salomon. Salomon qui avait demandé à Dieu rien d'autre, souvenez-vous, que la sagesse. Pour diriger un si grand pays, un si grand peuple. Et le Seigneur lui avait accordé, n'est-ce pas, la sagesse, mais des choses en plus. Quel Dieu généreux nous avons. Si nous savons demander la bonne chose, Dieu répond au-delà de ce que nous demandons. Et nous, parfois, dans nos prières, dans nos demandes, nous nous restreignons. Et là, nous avons dans l'exemple de Salomon, effectivement, Dieu dit, mais tu aurais pu demander à ce que ta vie soit plus longue. Tu aurais pu demander à ce que tu sois plus riche. Mais Salomon ne l'a pas demandé, ça. Il a juste demandé la sagesse pour, en toute chose, pour diriger le peuple dans tous les cas de figure. Sans penser à lui. Dieu lui a accordé et lui a dit, tu ne m'as pas demandé quelque chose pour ta vie, je vais te l'accorder. Tu n'as pas demandé des richesses, je vais te les accorder. Vous voyez la différence entre nos demandes et les réponses que peut faire notre Dieu? Vous allez voir votre banquier, vous allez lui demander un prêt de temps, il va vous donner un prêt de temps. Rien de plus. Juste répondre à votre demande. Nous avons vu que la sagesse était importante dans notre vie de tous les jours. Je vous avais posé la question, qu'est-ce que vous auriez demandé à la place de Salomon? Alors peut-être que cette semaine, vous avez eu cette réflexion, ou peut-être vous ne l'avez pas encore eue, je vous invite à nouveau à le faire, de se mettre dans la peau, on va dire, hein, si on peut utiliser cette expression-là, dans la peau de Salomon. Le Seigneur a parlé Salomon, la nuit, quand il n'y a pas de bruit, en fait, pour que nous puissions être à l'écoute de Dieu. Parce que parfois, Dieu nous parle et nous ne l'entendons pas. Parce que notre cerveau, notre cœur n'est pas réceptif. Et alors, qu'est-ce que j'aurais demandé à Dieu? Qu'est-ce que j'aurais demandé à Dieu? D'avoir peut-être une vie plus longue, un peu plus d'argent, un meilleur travail, et ainsi de suite. Hein? Mais on connaît la réponse et on a l'explication. Vous savez, le Seigneur ne triche pas avec nous. Ne triche pas. Tout ce qu'il peut nous accorder, il l'a écrit. C'est juste à nous de faire la bonne demande, avec foi. Hein, il était dit dans le texte de la semaine dernière, et si vous voulez bien, je vous invite à le relire ensemble. Donc c'était dans Jacques, hein, n'est-ce pas? Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. « Si l'un de vous manque de sagesse, simplement qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » D'accord? Celui qui doute n'est pas sage. Voilà. Le doute ne fait pas partie de la sagesse. Nous nous étions arrêtés à cette sagesse, mais qui la détient? D'où vient-elle? À qui la demander? Alors, on ne la trouve pas dans d'autres manuels, ni à une adresse, ni sur un site internet, parce que maintenant, on peut parler de site internet. Voilà, je cherche la recette de la sagesse. Vous allez trouver des définitions avec des traits de caractère, mais vous n'allez pas trouver, si vous tapez la sagesse dans les moteurs de recherche, demandez à Dieu qui vous la donnera. On va vous parler de philosophie, de réflexion, de méditation, pour essayer de tirer quelques substances de la sagesse. Mais pas la sagesse comme Dieu l'entend, la conçoit et la donne. Et la donne, hein. Dieu ne vend pas la sagesse, elle ne s'achète pas. Personne ne peut vous dire « Viens avec moi, je vais te donner la sagesse ». Seul Dieu donne la sagesse. Dans Exode, au chapitre 31, verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il ait sagesse, intelligence, connaissance et savoir-faire universel. Création artistique, travail de l'or, de l'argent, du bronze, ciselure des pierres, de garniture, sculpture sur bois et toutes sortes de travaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai mis la sagesse dans le cœur de chaque sage pour qu'il fasse tout ce que j'ai ordonné. » Quand Dieu demande la construction de ton tabernacle, il donne tout un tas de directives. Et en même temps, il donne la sagesse de réaliser des choses. Dieu est la sagesse, lui seul la donne. Il est même écrit qu'il a fondé la terre par la sagesse. Donc d'où vient-elle cette sagesse? Elle ne vient que de Dieu. À qui la demander? À Dieu uniquement. Ne venez pas me demander à moi de la sagesse. Je serais bien incapable de vous donner cette sagesse qui vient de là-haut. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que rappelez-vous ces versets de Jacques, demandez à Dieu d'avoir de la sagesse. Quand Jésus était sur la terre, les hommes reconnaissaient sa sagesse au travers de ses œuvres, à travers de ses paroles, de ses actes. Mais ils ne savaient pas d'où venait cette sagesse. Il est écrit que Jésus enseignait avec sagesse. Ses propos étaient remplis de compassion, d'amour, de tendresse, mais tout en étant fermes et précis, sans équivoque. La sagesse est utile pour apprendre à connaître Dieu, pour enseigner, pour discerner, pour analyser, pour créer, pour vivre selon la parole de Dieu. Donc vous voyez, à chaque fois que l'on parle de cette sagesse-là, elle est globale. C'est un cercle 360 degrés. C'est pas un quartier. Je veux juste la sagesse pour apprendre. Ou je veux juste la sagesse pour enseigner. Oui, mais le reste. Je peux enseigner avec sagesse, mais est-ce que ma recherche, je la fais avec sagesse? Est-ce que j'ai la sagesse pour faire la recherche? Je peux avoir le don d'enseigner. Je peux avoir le don d'enseigner. Mais est-ce, si je n'ai pas la sagesse qui va autour, ce n'est juste une lecture qu'un partage. Il n'y a pas d'inspiration. Est-ce que notre journée, là aujourd'hui, depuis ce matin, est-ce que notre journée reflète la sagesse de Dieu ? Dans ce que nous avons fait depuis notre réveil. Enfin, l'homme a-t-il la sagesse? L'homme a-t-il la sagesse? 1 Corinthiens, chapitre 1er et dans le chapitre 2 aussi. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas crucifié Jésus s'ils avaient eu la sagesse. S'ils avaient eu la sagesse, auraient-ils cherché à détourner Jésus de son ministère? S'ils avaient eu la sagesse, et combien d'exemples on va pouvoir dire, on va pouvoir citer? À chaque fois, dans chaque exemple, il y a l'absence flagrante de sagesse. La sagesse de Dieu est folie pour l'homme, et vice-versa. Dieu dit, mais fou l'homme qui se croit sage. De quelle sagesse peut-il revendiquer si elle ne vient pas de Dieu? L'apôtre Paul établit le contraste entre la sagesse humaine centrée sur l'homme, qui ne tient pas compte de Dieu, et la sagesse divine. Ah, on va essayer d'expliquer comment obtenir une certaine forme de sagesse. Mais qu'en est-il en réalité? Elle n'est pas vraie. La folie ou acte insensé des hommes montre en évidence ce manque de sagesse, et cette opposition avec la sagesse de Dieu. Nos valeurs actuelles mettent en avant des qualités humaines, mais qui font souvent obstacle à l'œuvre de Dieu, qui rejettent par exemple la mort de Jésus sur la croix et sa signification. Jacques chapitre 3, verset 14. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une sagesse totale. Pas de sagesse dans nos colères. Il n'y a pas de sagesse dans nos disputes, dans nos mauvaises pensées, nos mauvais actes, nos rivalités. Et pourtant, c'est tout ce qui fait l'homme charnel. C'est de la mauvaise herbe dans le champ de fleurs. C'est le péché d'Adam qui est en nous. La sagesse appartient à Dieu qui lui seul peut la donner à tous et à toutes. Lorsque l'on ne se sent pas bien, pas en forme, faible, nous avons la possibilité d'aller voir un médecin qui nous auscultera, qui nous expliquera ce qui ne va pas, qui remplira sûrement une ordonnance pour nous prescrire des médicaments. Tout cela pour être guéri, être en pleine forme. N'est-ce pas, c'est le but d'aller voir un médecin? C'est que quand on en ressort, on a quelque chose, on a une action à mener pour obtenir une guérison. Donc dans le cas de cette maladie, on constate qu'il y a des symptômes, quelque chose qui ne va pas, et puis on va y poser un diagnostic. Ce diagnostic va engendrer une ordonnance, une action, une prise de quelque chose, ou une opération, ou peu importe, jusqu'à obtenir une guérison. Avec la sagesse, le processus est le même. Sans la sagesse divine, nous avons des symptômes. Et là, il suffit que chacun s'examine. Un diagnostic. au regard de la parole de Dieu et à son écoute. On réalise ce qui ne va pas en écoutant sa parole, en la lisant, même en chantant un cantique. On met un nom sur le mal. Tiens, voilà ce qui ne va pas. Peut-être que je vais avoir du mal à le discerner. Mais alors je demande à Dieu de m'aider à le discerner. Et puis je vais pouvoir établir une ordonnance. Dieu va me donner une ordonnance. Je vais dire, voilà ce qu'il faut faire. Jacques, chapitre 1er. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande et elle lui sera donnée généreusement et gratuitement. Mais là, il n'y a pas de médicament. Là, on s'arrête. Il n'y a pas d'opération. Avec le Seigneur, on zappe une étape. Il n'y a rien de chimique. Il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de cure, il n'y a pas d'argent à investir, il n'y a pas... On ne va pas se couper la main, on ne va pas se couper un bras, ni les pieds. Il y a juste une action à mener par rapport à ça, reconnaître et à demander la sagesse. La sagesse humaine pourrait dire « Ah, c'est si simple que ce n'est pas possible !» Mais alors pourquoi ferions-nous Dieu menteur ? Est-ce que nous devrions arracher la page de Jacques ? En disant « Oh là, oh là, là, c'est un truc, il vaut mieux même pas mettre le nez dedans, ni les pieds dedans, oh là, la sagesse, c'est pour les philosophes, c'est pour peut-être les pasteurs, peut-être un truc nébuleux. Nous, on va se contenter de notre petit truc. Que celui qui doute expérimente sincèrement la capacité offerte par Dieu d'avoir la sagesse divine. Maintenant, il suffit de l'expérimenter. L'Ecclésiaste dit... La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ne cherchons pas la sagesse au travers de nos actions, mais cherchons d'abord la sagesse pour que nos actions soient bénies. Voilà, quand on fait des mathématiques, le CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Je ne vais pas aller chercher dans ce que j'ai fait à... Ce que j'ai fait, super, c'était sage. Peut-être, je ne dis pas le contraire, peut-être. Mais est-ce que c'est moi qui ai fait à interpréter ça en termes de sagesse ? Ou je me suis passé Dieu parce que ça paraissait tellement facile à décider cela que je n'avais pas besoin de Dieu. Et après je dis, ah merci Seigneur, c'était sage. Qu'en sais-tu ? La demande de sagesse qu'a formulée Salomon, non seulement lui a valu une qualité de vie exceptionnelle, il a été écrit que il n'y a jamais eu de plus sage avant ni après Salomon. C'est énorme. C'est énorme. Parce que Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il demandait, parce que ce qu'il a demandé, il n'y avait rien d'égoïste, il n'y avait rien pour lui. Il n'y avait pas de profit, il n'y avait pas une recherche d'intérêt. Et Dieu ne s'est pas compté de répondre uniquement à sa demande, parce qu'elle était juste. Salomon a fait une demande juste. Alors je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, prenons ce verset de tout à l'heure. S'ils étaient sages, donc en clair, hein, s'ils avaient la sagesse. Voici ce qu'ils comprendraient. Et toi, tu as lu ce qu'ils... C'était quoi le mot que tu as lu, toi ? Ce qu'ils comprendraient, ce qu'ils discerneraient. Je trouve que même c'est encore même plus fort, la compréhension et le discernement. Pour moi, c'est plus profond, le discernement. C'est aller voir plus profondément que la compréhension. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Voilà. Si elles avaient été sages, ils auraient vu au-delà, plus loin. Prenons un exemple concret. Je cherche du travail. Je crois qu'Hélène cherche du travail. Alors, comment Hélène demande à Dieu de l'aider ? Seigneur, trouve-moi du boulot. C'est un exemple, hein, Hélène. On l'a tous fait, moi le premier. Hein. Seigneur, trouve-moi un travail. Mais on peut aussi rentrer dans une autre dynamique. Seigneur, quel est le travail que tu as pour moi ? Ou alors, Seigneur, je veux te servir. Parce que je peux très bien servir Dieu, et je peux servir Dieu au travers de mon travail. Quand je dis, Seigneur, je veux te servir, c'est pas, Seigneur, je veux être missionnaire. On a souvent l'impression qu'on a là, si jamais on demande à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux te servir, Seigneur, il veut demander, bah, tiens, tu prends ta valise, et puis tu vas dans le désert. Non. Non, mais Seigneur, je veux te servir. Est-ce que je peux servir Dieu dans mon travail ? Vous voyez, la démarche, elle est restrictive quand on dit à Dieu, ah ben tiens, j'ai trouvé un entretien, j'ai dégoté un entretien, Seigneur, faut que ça marche, faut du boulot. C'est juste naturel, ça, c'est, voilà. Mais j'aimerais vraiment vous donner cette notion de rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Seigneur, donne-moi la sagesse pour mener à bien les choses que tu veux que je fasse. Sinon, on va tomber dans l'exemple tout à l'heure restrictif de Salomon qui aurait pu demander uniquement des petites choses. Alors j'espère que je ne vous ai pas fait trop mal au cerveau, je pense pas, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que vous appuyiez sur cette demande de sagesse que vous pouvez adresser à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse, mais pas... Soyez gourmand, s'il vous plaît. Soyez gourmand, Alisa. Demandez pas qu'un quartier de gâteau, demandez tout. Demandez tout. Le Seigneur va pas vous dire, oh là là, là tu demandes trop. Hein, tu me demandes la sagesse pour me servir. Non. Encore une fois, c'est nous, malheureusement, hein, par manque de foi, par manque d'oser, j'ose pas. J'ai peur de ce que le Seigneur va me répondre. Ben, dans ce cas-là, prie pas, hein, ça sert à rien. Hein. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps et puis tu vas partir à la recherche de réponses que tu n'auras pas. Elles ne vont pas te correspondre. Ben, tu vas tellement insister, Seigneur, vous dites, bon, écoute, ben, puisque tu insistes, vas-y, et tu verras où tu vas. Et quand tu seras perdu, entre guillemets, hein, parce que le Seigneur ne nous envoie pas non plus à la catastrophe, mais parfois, il nous laisse faire certaines choses. Parce que moi, je suis convaincu que... Là, je l'ai fait avec sagesse, je suis très content. Non, je l'ai fait avec ma compréhension, mais sans le discernement. Je n'ai pas discerné ce que le Seigneur avait derrière cela. Et puis après, on dit, bah, si j'avais su. Moi aussi, je dis, si j'avais su. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai cru faire de bonnes choses. Et jusqu'au jour, je me suis dit, mais je ne comprends pas, il y a un truc qui ne va pas. Et après, ma vie, si j'avais su. Quand le Seigneur m'a parlé cette nuit-là, hein, t'as entendu ? Mais tu n'as pas appliqué. Et après, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas ? Allez, juste écouter. Salomon, il a juste écouté ce que le Seigneur avait à lui dire. Alors, avant de formuler des demandes à notre Seigneur, qui répond à celui qui demande avec foi. Hein. Avant de faire des demandes, prions pour que nous ayons la sagesse de formuler selon la volonté de Dieu cette demande. Voilà. Voilà pour notre réflexion sur la sagesse. On pourrait encore en parler pendant un long moment. Mais elle est très importante, cette sagesse, dans les 360 degrés d'application de notre vie. Et ne nous contentons pas d'une petite part de gâteau, mais prenons le gâteau en entier. Et laissez la place à Hélène, et comme nous avons quelques minutes d'avance, volontairement essayer de faire un petit peu plus court, pour que nous puissions passer un petit moment dans la réflexion silencieuse, certes, mais aussi de ne pas avoir peur de dire « Seigneur, donne-moi la sagesse. » Il n'y a pas besoin de faire une prédication à votre place. Dieu n'a pas besoin de grands discours, de grandes phrases. Vous savez, un merci Seigneur, je pense que les murs vont pas s'écrouler, là, ici, maintenant. Il n'y a personne qui va rigoler s'il vous entend dire merci Seigneur. Voilà. Des choses simples. Des choses très simples. Merci.